Radio Foot International.
Cédric de Oliveira.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International, le café des sports, comme tous les vendredis.
Absolutely incredible news breaking today. Arsène Wenger is leaving Arsenal Football Club. Incredible news.
Eh oui, on ne s'y attendait pas. Waouh, Arsène Wenger quitte Arsenal. Il a annoncé ce matin la fin d'une aventure de 22 ans. Pour en parler, beaucoup de monde dans le studio. Salim Bongali, Marc Libra, Rémi Ngono, Xavier Barré, Alejandro Valente. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Voilà, du beau monde pour évoquer cette fin d'histoire entre Arsène Wenger et Arsenal. La fin d'une ère pour le club londonien et peut-être même pour la Première Ligue. Quelle trace va-t-il laisser outre-Manche? Et puis qui pour lui succéder? N'est-ce pas trop tôt pour Thierry Henry, la légende du club? Les dirigeants d'Arsenal opteront-ils pour une autre solution? En tout cas, les prétendants sont nombreux. Au programme du Café des Sports également, deux gros matchs ce week-end. Choc en Italie avec Naples, Juventus, Turin. Les Napolitains qui espèrent revenir à un point de la vieille dame en cas de succès. Et puis en Espagne, peut-être un premier titre dans l'escarcelle du Barça cette saison. Les Catalans affrontent le FC Séville en finale de la Coupe du Roi. Et puis on terminera par les traditionnels cartons qui seront distribués en fin d'émission. Le Café des Sports, émission préparée en compagnie de David Finzel et réalisée par Guillaume Ploquin. Ça devait être un vendredi comme les autres pour l'Angleterre et Arsenal, mais ce matin, coup de tonnerre, Arsène Wenger a décidé de publier un communiqué sur le site du club expliquant qu'il arrêtait d'entraîner les Gunners à la fin de la saison.
Après un examen attentif et après des discussions avec le club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison. Je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le club pendant tant d'années mémorables. J'ai géré le club avec un engagement et une intégrité totale. Je tiens à remercier le personnel, les joueurs, les directeurs et les fans qui rendent ce club si spécial. J'exhorte nos fans à se tenir derrière l'équipe pour finir en beauté. À tous les amateurs d'Arsenal, prenez soin des valeurs du club. Mon amour et mon soutien pour toujours.
Voilà messieurs, la lettre poignante d'Arsène Wenger sur le site du club. Salim Bongali, il s'en va 22 ans après son arrivée. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'Arsène Wenger a fait son temps?
Mais ces dernières années, on n'arrêtait pas de voir dans les tribunes, notamment d'Emirates, et puis même avant d'aller par une heure, surtout d'Emirates, ces fameux Wenger out. Vous savez, ces dernières années, on parlait plus du Wenger agaçant qui n'avait pas de titre, du loser Wenger que du gagnant Wenger. Les plus jeunes générations ont oublié qu'Arsène Wenger a été un gagnant et pas qu'un peu avec cette équipe d'Arsenal. Donc c'est vrai que ces dernières années, on se posait donc cette question, mais à un moment donné, faudrait-il pas qu'il parte tout simplement, qu'il arrête avec cette équipe d'Arsenal? Donc au final, j'ai envie de dire, c'est les fans d'Arsenal qui sont contents de voir partir, parce que oui, peut-être que un nouvel entrain va amener un nouveau dynamisme. J'ai envie de dire, c'est peut-être logique au final de voir Arsène Wenger partir ainsi.
Xavier Barré, vous êtes d'accord avec ça? C'était le moment de partir?
C'est-à-dire qu'il aurait pu partir la saison dernière puisqu'il était en fin de contrat. Moi, je crois qu'effectivement, il s'était rendu compte qu'il y avait une certaine usure, les dirigeants aussi, mais il voulait le garder parce que c'est le bâtisseur de cet Arsenal actuel. On parle du palmarès, mais on oublie aussi ce qui est immuable, à savoir le centre d'entraînement de Shenley. C'est lui qui l'a construit, qui l'a conçu. Le stade de l'Emirates, il a fait le tour des stades dans le monde entier pour faire de l'Emirates le meilleur stade du monde. Donc, il n'y a pas que Wenger entraîneur. Il y a Wenger manager à l'anglaise, il y a Wenger bâtisseur, il y a Wenger constructeur, et ça, effectivement, les dirigeants le savent parfaitement. Après, il y a des supporters qui effectivement réclamaient son départ, il y en a aussi beaucoup qui le soutenaient, hein, qui continuent à venir. L'Emirates Stadium continue à faire le plein à tous les matchs, ou presque. Donc, il y a effectivement cette réalité, et l'usure fait que les dirigeants ont essayé quelque chose en le faisant s'entourer de plus de personnes. Le staff d'Arsenal aujourd'hui, je crois que c'est 21 personnes. À l'évidence, c'était pas le meilleur choix. Moi, je pense que Wenger aurait dû prendre du recul dans un rôle d'un peu d'éminence grise et effectivement laisser le terrain. Il a pas voulu ça. Il a voulu garder le terrain. À l'arrivée, c'est vrai que le résultat de cette saison montre que cette réorganisation n'a pas été bénéfique.
Rémi Ngono, on sait que vous êtes pas forcément un grand fan d'Arsène Wenger. Est-ce que c'était le moment pour lui de partir ou est-ce qu'il avait encore d'autres choses à apporter à ce club?
C'est une affaire de génération. Dos Santos est parti, bien évidemment, en Angola.
après avoir fait peut-être 37 ans au pouvoir, Mugabe est aussi parti. C'est bien évidemment la saison
où... C'est des comparaisons,
vous
avez quand même.
Attendez.
Comparaisons n'est pas raison.
C'est-à-dire, nous sommes déjà dans la saison des départs des vieillards. Donc d'accord. Aujourd'hui, je crois très bien que après Arsène Wenger, c'est Paul Biya et Sassou Nguesso et autres. Pour vous dire aujourd'hui que le football est comme la politique. Le football est comme la politique. Quand on reste longtemps, on finit par pourrir. C'est-à-dire qu'à une certaine période, lorsque vous regardez Arsène Wenger de 96 à 2006, eh bien, le gars, il vous remporte trois championnats. Il va jusqu'en finale de la Ligue des Champions. On voit comment Arsenal est beau. Et mais par la suite, il va faire justement ce que les autres appellent parfois en Afrique les bâtisseurs, pères de la nation. Je ne dois pas partir pour laisser la place aux autres. Et finalement, il finit par pourrir. Il devient comme du riz. Et il y a un proverbe africain qui dit que plus le riz dure au soleil, plus il durcit.
Voilà, donc c'était, on a compris, c'était le moment de partir depuis très longtemps. Marc Libra, votre avis là-dessus, également.
Oui, ça faisait un moment que c'était déjà dans les tuyaux, mais il faut pas oublier. Je pense qu'on est peut-être dans. On a eu la nostalgie de Ferguson quand il est parti. Ça ne se reproduira plus, quoi. De voir 22 ans un coach qui reste à ce niveau-là. Certes, depuis 2006, Rémi a raison, c'est pas très bon, mais quand même le travail effectué, le club est toujours en positif. Ils ne perdent rarement de l'argent. Voilà, je pense que de partir à ce moment-là, alors peut-être ça a été un petit peu entre guillemets bien fait pour lui, parce que c'est vrai qu'il était libre, il a re-signé. Là, est-ce qu'il va s'arranger avec le club ou pas? Est-ce qu'il a prévu un successeur pour l'aider? Je pense que voilà, il a fait son temps, mais par contre, on a beaucoup de respect parce que ce qu'il a su créer dans un club qui n'existait pas, qui n'est nulle part sur la planète, au niveau d'Arsenal à l'époque, ça a été très important. Donc bravo et chapeau à lui.
Salim, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter.
Oui, juste par rapport au moment où de l'annonce, donc nous sommes à vendredi matin, à deux jours d'un Arsenal-West Ham, surtout, qui n'a aucune importance désormais en championnat, mais surtout à quelques jours du fameux match et de la fameuse double confrontation face à l'Atlético Madrid. Le papier, Arsenal n'est pas favori de cette double confrontation, mais là, j'ai envie de dire, vous motivez encore plus vos joueurs.
C'était bien fait.
C'est ça, notre coach va partir dans quelques jours, quelques semaines simplement. On a envie presque.
Voilà, regain de motivation pour
pas que pour nous, lui aussi, pour tout ce qu'il nous a permis. Une motivation supplémentaire parce qu'il aurait pu logiquement attendre la fin de la saison pour annoncer cela. Là, le faire à ce moment précis, pour le coup, c'est un bon coup de com'.
Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il est parti de son plein gré Arsène Wenger ou est-ce qu'il a été contraint par sa direction? On sait qu'il a été beaucoup critiqué ces dernières saisons. Justement, on va l'écouter, Arsène Wenger, sur ses critiques.
Je ne suis pas insensible, donc les critiques me touchent et j'essaie, dans mon job, le but, c'est de rendre tout le monde heureux. Et quand on n'y arrive pas, évidemment, on n'est pas très content. Mais je pense aussi que, d'abord, ça a été une vraie minorité, quoi. Et puis, ensuite, ça a été beaucoup de ma faute aussi, parce que j'ai laissé planer le doute de mon engagement sur le futur. Et ça a donné éventuellement, dans une mauvaise période, ça crée forcément des critiques. Donc, une grosse partie de ce qui est arrivé est de ma faute.
Voilà, alors il dit que c'est de sa faute. Salim, vous aviez justement réalisé cette interview pour SFR Sport. Ça a joué justement dans sa volonté de quitter le club à ce moment-là.
Alors, ça, c'était en début de saison, hein, rappelons-le, effectivement, c'était en début de saison. Donc, on faisait le bilan de ce qui s'était passé la saison dernière avec vraiment un acharnement de la part des supporters, une non-qualification pour la Ligue des Champions. Il y avait beaucoup de gouttes d'eau et au final, il était resté tout de même. Début de saison, on le sent frais, on le sent repartir pour une nouvelle saison. Il expliquait tout de même, donc, et on l'a entendu, que ses critiques l'avaient particulièrement touché. Malgré tout, alors, quand je l'avais rencontré, vraiment tranquille, il y a quelques instants, Rémi disait, pour ça, à un moment donné, faut savoir partir, faut pas faire la saison trop, entre guillemets. Mais là, on a l'impression que pour lui, ce n'était pas la saison trop, qu'il se sentait bien pour pouvoir relancer une machine. D'ailleurs, il avait signé un contrat de 2 ans, hein, faut-il le rappeler, pas 1 an, mais bel et bien 2 ans. Donc, il se sentait bel et bien repartir pour, avec l'achat de la Lacazette notamment. Donc, ses critiques l'ont touché, oui, mais c'est pas ça qui le fait partir. Là, c'est qu'à un moment donné, il est juste, j'ai presque envie de dire, fatigué. Il a envie d'arrêter, tout simplement. Mais c'est pas les critiques même. Cette saison, si vous me permettez, il a eu beaucoup moins de critiques que la saison dernière, justement.
Et donc, du coup, Alejandro Valente, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que. Voilà, il vous le sentait fatigué ou il pouvait pas encore enchaîner une saison de plus?
Je pense qu'il avait pris cette décision depuis un moment. Beaucoup de gens disent qu'ils l'ont croisé ces dernières semaines et qu'il semblait presque libéré d'un poids. Donc, on attendait les bons moments. Et c'est vrai que les moments étaient bien choisis car, Là, Arsenal rebondit un petit peu, donc il part un petit peu par la grande porte. Il y a ces demi-finales des Ligue Europa qui vont avoir lieu. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on est en train de parler comme si on était à un enterrement et qu'on enterrait quelqu'un, alors que Wenger, je l'espère, a encore quelques belles années devant lui. Mais je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit, il faudrait ajouter aussi peut-être que les championnats d'Angleterre et ce qu'il est devenu, cette première ligue que tout le monde admire, grâce en grande partie à Wenger. Parce que quand il est arrivé, c'était pas du tout la même
chose. Voilà, justement, Salim,
vous avez... Oui, parce que vous avez utilisé le mot, c'est comme si on l'enterrait. Alors évidemment, il est encore là pour, on l'espère pour lui pour de nombreuses années, mais c'est presque, j'ai envie de dire, une image de la première ligue qui disparaît, entre guillemets. Ferguson, c'était il y a quelques années. Ferguson et Wenger, c'était les deux mastodontes de la première ligue. Alors évidemment, pas le même palmarès, etc., mais la rivalité sportive qu'on a connu de ces deux hommes, et ben ces deux-là ne sont plus là de cette première ligue de l'époque, de la fameuse rivalité United-Arsenal. Et on est passé désormais à du Chelsea par la suite avec Mourinho, désormais United. Entre guillemets, les anciens ne sont plus là.
Et mais beaucoup l'ont imité aussi. Hein,
justement, voilà, justement, vous parliez de cette époque-là, on va en parler. Arsène Wenger, il est arrivé en octobre 96 après une expérience au Japon, à Nagoya. Et pourtant, David Dane, le président d'Arsenal à l'époque, décide de le recruter pour succéder à George Graham. Écoutez ce que disait à l'époque Arsène Wenger du championnat anglais.
Je pense que le football anglais est en train de monter et que la Première Ligue est maintenant l'un des championnats les plus importants au monde. Je pense donc que c'était pour moi un défi d'être l'un des premiers managers étrangers et bien sûr le premier manager français à aller là-bas et essayer d'avoir du succès.
Alors à l'époque, la presse anglaise titre Arsène Où quand elle prend conscience que c'est lui qui va entraîner Arsenal. Xavier Barré, elle a vite appris à le connaître, il a marqué le foot anglais, Arsène Wenger.
Oui, bien sûr, alors c'est le Sun hein, qui titre Arsène Où, hein. C'est un quotidien populaire, pas tous les autres journaux. Et c'est vrai que quand il arrive, il a effectivement peu de crédit, parce que même s'il a été champion de France, il faut le rappeler quand même, avec Monaco, même s'il avait fait du bon travail au début de sa carrière à Nancy, bon, c'est vrai qu'en Angleterre, qui est resté une île à cette époque, on a très peu d'entraîneurs étrangers, et donc quand il débarque à Arsenal, tout le monde se demande d'où il arrive. Et très vite, effectivement, il va réussir à convaincre tout le monde. Il arrive, la saison est commencée en 1996, il faut le rappeler, donc la saison 96-97 s'achève, et derrière 97-98, ils sont champions. Donc en un an et demi, il fait d'Arsenal un club qui était un peu perdu, qui avait des problèmes.
Boring Arsenal.
Voilà, il arrive à en faire un champion d'Angleterre. Ils font même le doublé d'ailleurs. Et ça, au nez et à la barbe du Manchester United d'Alex Ferguson. Donc ça a été effectivement une réussite express et remarquable.
Qu'est-ce qui marque les bras? Pardon, Rémi, vous voulez peut-être intervenir?
Oui, mais en même temps, je reviens toujours vers ça. C'est qu'on va quand même retenir que, avec tout ça là, on va retenir que Alex Ferguson a gagné la Ligue des Champions et que Zinedine Zidane en a déjà gagné et que, au bout de 22 ans de carrière d'un grand manager, il n'en a pas gagné et que nous allons aussi retenir que, en ce temps, les Mancini, les Ranieri sont quand même aussi arrivés dans le championnat d'Angleterre et Pellegrini et autres sont venus gagner, comme Mourinho arrive, gagne, repart, revient, il gagne la première ligue. Et lui, il ne parvient plus.
C'est son grand échec, finalement, c'est ça.
C'est pas avoir gagné la Ligue des Champions. C'est un énorme échec. Et on va aussi retenir quand même qu'en 22 ans, Arsène Wenger a réussi à traverser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 6 fois. 6 fois. Ça, c'est horrible pour un grand manager de son envergure.
Marc Libra, voilà, donc grand échec effectivement, c'est d'avoir manqué cette Ligue des Champions. Mais là, on était plutôt sur la première ligue. Qu'est-ce qu'il a apporté Arsène Wenger à ce championnat?
Il a apporté de faire exploser des joueurs comme Henry, comme Vira, comme Pires. Il a récupéré. On parle que des Français qu'il a récupéré, mais il y en a d'autres aussi qu'il a su faire venir. Il a insufflé. Moi, je les ai croisés en 2002-2003. C'était une machine très impressionnante hein, à l'époque. Nous à l'époque de Norwich. On avait pris 4 hein, donc voilà, c'était
peur
une machine
Arsenal.
Non, on n'a pas peur, mais ils allaient tellement vite, voilà, c'était une machine. Alors c'est vrai, il y a ce décalage qu'à 2006, mais pendant est-ce qu'on se dit, tu as cité certains managers qui ont été avec des champions, mais ils ont fait quoi? C'est un one shot sur un an et demi puis disparaissent, ils n'existent plus. Sur 22 ans, ce qu'il est arrivé à faire sur asseoir un club hein, mais c'est important, je suis plus sur la solidité, sur des fondations très saines que de me dire ah ben oui, lui il a gagné une fois la Ligue des Champions et aujourd'hui il fait quoi? Il est en Chine ou je sais pas où. Donc je sais pas, ça se tient.
Moi j'ai est bien là hein. Pep Guardiola est bien
ouais,
là.
Ouais, mais c'est des one shot, ils font 2 ans, 3 ans
et Rémi Gonneau va défendre Pep Guardiola.
ils ont au moins gagné la Ligue des Champions.
Moi je dis
et je vais quand même dire aussi les Jupp Heynckes et tout, ils ont fait les Carlo Ancelotti. Donc à une certaine période, quand vous êtes en train de me dire, comme vous dites également qu'il a fait exploser les joueurs, je vais vous dire, par exemple, qu'il a tué aussi beaucoup de joueurs. En même temps, parce qu'à une certaine période, vous vous rappelez, par exemple, en 2011.
Qu'est-ce que vous appelez tuer des joueurs?
C'est-à-dire que des talents ont eu totalement à dégringoler et à se retrouver pratiquement dans la poubelle. Vous vous rappelez? En 2011, lorsqu'il prend 8-2, c'est-à-dire que c'est Manchester United qui donne 8-2 à Arsène Wenger, il dit « Il me manque des joueurs dignes d'expérience. » Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il a recruté en ce temps, que ce soit Léo Zil et surtout Peter Cech. Peter Cech, avec Chelsea, c'est 11 saisons pour 189 buts encaissés. Peter Cech, avec Arsène Wenger, 3 saisons, c'est 200 buts encaissés. Alors, regardez le rendement de tout ça.
C'est peut-être pas les mêmes clubs, les mêmes époques.
Vous n'êtes pas honnête, Rémi, parce que vous regardez toujours le côté sombre des choses.
Rémi,
alors
tu me parles de Mourinho qui a gagné la Ligue des Champions. Il a tué un joueur qui s'appelle De Bruyne et Salah. C'est quoi aujourd'hui De Bruyne et Salah? Et il les a coupés en deux, en petits morceaux. Donc, il ne faut pas dire de bêtises.
Juste, je vais prolonger par rapport à Arsène Wenger. Lorsqu'il arrive en 1996, il y a des méthodes de travail qui existent en Angleterre. C'est vrai que lui, il a aussi révolutionner ce que maintenant fait notamment Pep Guardiola. Pep Guardiola est très fort là-dedans en étant un vrai manager, en inspectant la diététique, les plats, j'ai presque envie de dire, de ses joueurs. C'est Ian Wright qui l'expliquait très bien il y a quelques saisons lorsqu'on avait fêté les 20 ans d'Arsène Wenger à la tête d'Arsenal, où il disait, les premiers jours, j'étais très en colère vis-à-vis d'Arsenal. Pourquoi? Parce que on devait manger des petits pois sans sel. Et il dit, mais pourquoi sans sel? Ben Arsène Wenger nous a expliqué, ne mets pas de sel, tu verras, en termes d'énergie, tu seras meilleur, etc. Et lui-même le disait, l'expliquait, j'ai jamais été aussi fort, notamment lors de ma première saison, j'ai jamais été aussi fort dans ma carrière. Mais c'est ce genre de choses qui n'existait pas en Angleterre. Lui, il l'a fait avec certains autres joueurs, Tony Adams, notamment, qui l'a éloigné d'alcool.
J'allais rebondir là-dessus. J'ai eu la chance, moi, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont accès au family room de l'Emirates Stadium, là où viennent les joueurs retrouver leur famille. Oui, il y a très peu de gens qui peuvent y aller.
J'en avais de la chance, Marc. Ouais,
Arsène Wenger qui a invité pour moi et mon fils, pour que mon fils voit les joueurs d'Arsenal.
Voilà. Et le family room, vous avez les femmes des joueurs, les agents parfois, vous avez les enfants, ils sont là, ils attendent que les joueurs aient pris leur douche, répondu aux questions et viennent. Eh bien, il y a tout. Il y a des buffets magnifiques, des fruits, des légumes, des plats, on peut manger en attendant après le match, mais il n'y a pas une goutte d'alcool. Et vous imaginez, quand vous connaissez la culture du football en Angleterre, où la bière est intimement liée au ballon rond, je parle pas du whisky, eh bien, lui, il a réussi à imposer ça à ses joueurs. Pas une goutte d'alcool, même pour fêter les bons résultats après les matchs.
Bayern gagne dans l'alcool, dans sa bière, donc à une certaine période.
Non, si tu après me fais le titre, oui, mais pas le reste de la saison.
Si c'est que ça, je vais vous dire, attendez.
Rémi,
on donne des exemples.
Où nous sommes avec ces résultats, la diététique et tout, et tout le reste et tout et tout, il n'y a pas de résultat. Le problème, c'est que Manchester... le problème, c'est que Arsenal n'est même pas qualifié en Ligue des Champions.
Rémi, vous êtes
c'est pas possible.
Rémi,
vous êtes
en train de réagir comme un gamin qui a 15 ans, donc il ne connaît pas l'ancien Arsenal. Cet Arsenal qui gagnait tout.
Je vous demande de vous arrêter.
Après, cette équipe gagne des titres. C'est ça le truc. Alors après, et vous avez raison, Arsenal aujourd'hui est une équipe amorphe, évidemment, qui gagne plus. Mais n'oubliez pas 96-2006, où là, on a rêvé avec cette équipe d'Arsenal.
Ne sortons pas sur le passé.
Mais oui,
nous sommes sur le présent.
Non, mais Wenger, c'est père de 22 ans.
C'est marrant, justement. C'est étonnant de la part de Rémy Ngono, qui nous cite d'habitude des statistiques de 1950. Maintenant, il oublie la période 96-2006. Quelle mauvaise foi. Quelle mauvaise foi.
Xavier Barré, j'ai quand même félicité Wenger, qui a été bon jusqu'en 2006. C'est ce que je vous dis, et j'ai commencé cela, c'était en prélude, c'était mon introduction.
Mais à une certaine période,
lorsqu'on est déjà constipé, suranné, désuet, exsangue, il faut savoir partir. C'est ce que je ne fais que vous dire, il n'y a plus de créativité.
Rémi, c'est pas lui tout seul qui décide. Arsenal est un club avec une direction, avec des actionnaires qui
sont contents
de très près tout ça, et c'est eux qui ont voulu qu'Arsène Wenger continue.
Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les actionnaires, ils veulent deux choses au final. Comme un supporter lambda, j'ai envie de dire, c'est que vous remportiez des titres, forcément c'est logique, que vous souliez des trophées, et aussi que votre compte en banque soit dans le vert.
Aujourd'hui, c'est peut-être plus ça.
J'idéalise cela, mais c'est un fait au final. Et n'oublions jamais, Arsenal est dans le vert à chaque fois avec Arsène Wenger. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est...
Quelle est l'équipe dans le top européen qui est dans le rouge? L'Oréal, Manchester City,
le Paris Saint-Germain,
le PSG, Chelsea, Real remporte, Manchester tout United. Comme Manchester United, tout comme Barcelone, tout comme les autres, comme Bayern. Et comme vous êtes là, on dirait que nous sommes des vendeurs de cacahuètes. Ils sont là. Arsenal n'est même pas parmi le top 5 des clubs les plus riches d'Europe. Et vous êtes là en train de me dire ce que Wenger a fait, c'était son argent.
Parce que les autres clubs,
c'était son argent.
Ben, il a, en tout cas, il l'a géré en bon père de famille. Il a permis au club de se développer de façon intelligente. Encore une fois, avec un stade qui est une référence en Europe et dans le monde aujourd'hui, qu'ils ont payé quand même 400 millions.
Il est devenu maçon pour construire.
Non, mais il a pris son rôle.
Justement, c'est ça en fait, c'est que Arsène Wenger est resté aussi longtemps parce que la direction du club, à un moment donné, trouvait que c'était la personne adéquate pour faire développer le club. Emirates, c'est justement pour ça qu'il a été créé. C'est qu'à un moment donné, on a vu que comment je peux faire gagner de l'argent à mon club, en laissant peut-être Arsène Wenger qui justement dépense peu sur le marché des transferts et construit un club. Vous parliez du bâtisseur, c'est exactement ça.
Mais en plus, ça a été les consignes qui lui ont été données entre 2006 et 2009-2010. Comme ils avaient construit le stade, plus de 400 millions d'euros, ça leur a coûté. Il fallait le rembourser puisque c'est un stade dont ils sont propriétaires. C'est pas comme dans beaucoup de pays où c'est les stades municipaux.
Même donc la Juve a son stade.
La Juve est adossée à un gros groupe industriel qu'on connaît et qui a des moyens financiers importants. Là, c'est une entreprise totalement indépendante. Avec des actionnaires qui mettent de l'argent mais qui ne veulent pas en perdre. Et donc, ils ont réussi à construire un nouveau centre d'entraînement, à construire un stade, à construire une équipe performante qui a effectivement pas gagné la Ligue des Champions mais qui a été 3 fois championne d'Angleterre. Qui a gagné 7 fois la Cup. Personne n'a jamais fait ça.
Qui
a perdu des matchs, qui en a gagné aussi, qui en a perdu. Et donc cette équipe-là, aujourd'hui, Wenger va quitter ce club beaucoup plus fort qu'il ne l'a trouvé il y a 22 ans.
Salim Bongali.
Il y a quelques instants, on écoutait la réaction de Arsène Wenger qui disait qu'il avait fait des erreurs de communication la saison passée, notamment auprès de certains.
Parce qu'il a traîné un peu, ouais.
Exactement. Mais parmi d'autres erreurs qu'il a pu reconnaître aussi, c'est cette fameuse période post-Emirates Stadium, justement, vous avez un nouveau stade et donc vous devez faire comprendre aux gens qu'il y a peut-être une période où ça va être plus compliqué en termes d'achat de joueurs et donc de qualité et donc potentiellement de résultats. Et c'est vrai qu'Arsenal a au final pas assez fait comprendre, pas assez été pédagogue avec les gens pour leur dire écoutez, là il va y avoir 3, 4, 5, bon au final beaucoup plus longtemps,
voilà, on est d'accord. On gagnera plus de titres majeurs.
Au final, ça va être beaucoup plus compliqué que pour nous, il y aura peut-être que des accessites, etc. Et c'est là aussi où Arsène Wenger a été mauvais, j'ai envie de dire, dans sa communication. Cela ne défend pas le fait qu'à un moment donné, on aurait dû gagner la première Ligue aussi, il ne l'a pas fait, mais c'est peut-être là aussi l'une de ses erreurs sur ces
scènes. On ne peut pas oublier qu'Arsène Wenger, c'est aussi... on peut pas dissocier Arsène Wenger de cette saison 2003-2004, la saison des Invincibles. Quand même, ça reste quelque chose qui a marqué l'histoire de la Première Ligue. Rémi, on ne peut pas oublier que sur ces 22 ans, il y a eu cette saison. 49 matchs consécutifs quand même, sans perdre un match. Voilà, c'était la fameuse saison des Invincibles. Et justement, on va écouter quelques exploits des Gunners.
Solo goal by Thierry Henry. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing. Played 38, won 26, drawn 12, lost exactly none. Magic ball from Bergkamp to Patrick Vieira. Gets the goal that might make history.
Alors voilà, cette saison des Invincibles, voilà, c'est quand même quelque chose qui marque ça, messieurs. Je crois que ça, on n'a plus vu ça depuis cette saison 2004. Marc Libra, on s'en rappellera longtemps de cette saison. Et est-ce qu'une équipe maintenant elle sera capable de faire ça en Première Ligue?
En Première Ligue, ça me paraît difficile, puisque ça paraît difficile, mais. Pour revenir sur le débat, quel est aujourd'hui le coach ou une équipe qui est capable pendant 10 ans d'être au top? C'est-à-dire que de 96 à 2006, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire puisque on s'est régalé. Aujourd'hui, il y a très peu d'équipes. Paris, la saison passée, ils ont pas le titre, donc on se régale pas forcément. Là, c'est 10 ans plein.
plein. C'est-à-dire que c'est pas, tu as cité Rémi des grands coachs, je suis d'accord, mais est-ce que ces grands coachs sont capables sur 10 ans de mettre une structure, de poser des fondations dans un club et de dire pendant 10 ans, on rafle tout, on se régale, on prend des coupes, on fait, il a eu quoi, Salim, c'est 20 qualifications pour la Ligue des Champions?
C'est ça.
Mais n'importe quel directeur sportif, président aujourd'hui, Rémi rêverait de ça, d'avoir un coach, dire voilà, je vous demande, qualifiez-moi, et puis après on verra, parce que officiellement jusqu'en 2010, après le niveau il a été élevé, il y a des choses qui sont rentrées en compte par rapport à certains dirigeants de son club, qu'ils ont préféré peut-être à un moment donné, on va récupérer de l'argent, on en récupère, et je crois que c'est, alors en Angleterre c'est presque les seuls qui récupèrent de l'argent aujourd'hui.
Marc,
tu vois, mais c'est important.
Marc, c'est quand même terrible quand tu me dis, par exemple, par rapport à Manchester United qui a tellement d'argent et tu me dis que c'est les seuls qui récupèrent. Bon, je vais juste te répondre par des petits exemples. Lorsque vous me dites, il fait des économies, je peux vous dire, quand vous achetez aux îles à 50 millions, ce n'est pas pour faire une économie. Quand vous prenez les Chaka, les Welbeck et consorts, c'est pas pour faire des économies. Quand vous prenez Aubameyang et Mkhitaryan et vous vous faites battre par Bournemouth ou bien par n'importe qui, ce n'est pas de l'argent. Donc, à une certaine période, lorsque vous me dites que vous faites de l'argent alors que vous ne pouvez même plus vous qualifier pour la Ligue des Champions et vous me dites que c'est quelque chose qu'il faut accepter, alors, mon cher Marc Ridoua, dans ce cas, on vous dit juste une chose. Quand Leicester gagne le titre de champion en Angleterre, c'est avec quels moyens ?
Et avec beaucoup d'argent aussi. Moins qu'Arsenal, mais avec de l'argent, bien sûr. Le budget de Leicester, c'était plus de 100 millions d'euros.
Oh.
Et oui, c'est plus de 100 millions d'euros. Alors, effectivement, c'est rien.
Avec
C'est beaucoup moins que celui d'Arsenal, de Manchester United ou de Chelsea, évidemment. Mais c'est quand même 100 millions d'euros. C'est plus que tous les clubs français. C'est de l'argent parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui en Angleterre, compte tenu des droits télé énormes.
Ils ont combien ?
Mais ils sont loin d'être les plus chers du monde. D'ailleurs, effectivement, le problème d'Arsenal, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec Wenger, il me disait dès que les agents en fait se sont servis du sérieux d'Arsenal pour vendre leurs joueurs, plein de fois. Donc ils arrivaient à proposer le joueur à Wenger. Wenger, comme il avait l'œil, il disait ça m'intéresse. Ensuite, ils allaient voir d'autres clubs qui étaient réputés meilleurs payeurs pour en tirer plus d'argent. C'est arrivé plein de fois.
C'est l'offre et la demande.
Et donc Wenger, comme il a toujours refusé de faire du dumping, il a jamais voulu rentrer dans ce renchérissement. Alors effectivement,
sauf
il a raté des joueurs.
Sauf ces dernières saisons.
Oui et non, parce qu'après on peut dire.
Depuis ces dernières saisons, il achète.
On peut dire que ces dernières saisons, effectivement.
Il a acheté Alexandre Lacazette.
Oui, il l'a acheté.
Comme il l'avait pas fait.
Je suis pas sûr que beaucoup d'autres clubs le voulaient d'ailleurs. Hein, moi, je me souviens, dans cette émission, on avait dit que c'était une très bon choix pour Lacazette.
Mais c'est lui qui a commencé avec les Archavine. Il a même pris, d'ailleurs, il a pris tout le monde déjà.
Il
n'a pas fait que des bons choix.
Il a même pris Gervinho. Il a pris les Chamac. Il a pris ses.
Mais bien sûr.
Mais c'était pas cher, ça.
Mais c'était pas des
joueurs chers. Par rapport au droit, en Angleterre, c'est rien, ça.
Il n'a fait que, même Olivier Giroud, c'est lui qui l'a acheté. Mais finalement, vous allez me dire, il vient d'acheter Chaka. Aujourd'hui, je vois. Et à une certaine période, on me disait qu'il fallait des gars costauds à la défense. Il a pris les Mustafi et consorts et tout et tout. Le problème, c'est que moi, que ce soit au milieu de terrain, par exemple, quand vous avez des joueurs comme des Ramsey, attendez, Ramsey, c'est un super grand joueur. Vous avez un Chaka qui est ce qu'on peut appeler un véritable monument au niveau du milieu de terrain. Et vous me dites que vous vous retrouvez devant Bournemouth ou bien Brighton et chaque fois vous tombez comme ça.
Mais Manchester United a perdu la semaine dernière contre West Brom.
Arrivé tout le temps. Salim Bongali, est-ce qu'il est capable
encore une fois, sur ces dernières années, et nos deux camarades ont raison, d'un côté, qu'il y a eu des dépenses évidemment faites par Arsène Wenger, de l'autre côté,
des ratés au niveau des transferts. Tous les clubs, Salim, aujourd'hui. Tous les clubs.
Aujourd'hui, de toute façon, on a vu que la norme, j'ai presque envie de dire, c'est 50 millions, 60 millions.
À moins de 100, t'as plus rien aujourd'hui.
Mais effectivement, Arsène Wenger a eu des ratés aussi. C'est un fait, ces dernières années. Les joueurs que Rémi a évoqués sont des ratés. Moustafi est un raté aujourd'hui en défense et d'autres le sont aussi. Donc, et Arsène Wenger, il n'est pas idiot. Et il ne va pas le dire évidemment au grand public, mais il le sait lui-même intérieurement qu'il a fait des ratés. Mais encore une fois, globalement, il y a eu deux périodes dans sa carrière. On va dire le 96-2006, qui est colossal chez lui, avec cette fameuse finale perdue face au FC Barça. Et puis le 2006-2018, où vous avez eu certes quelques accessites, quelques cups, c'est très bien. Mais au final, ce qu'on attend, c'est le trophée, que ce soit la Première Ligue, voire la Ligue des Champions. Et
voilà.
C'est là
où il a réussi. Mais si c'était si catastrophique que ça, Rémi, on n'aurait pas tous ces prétendants qui jouent des coudes aujourd'hui pour hériter du poste d'Arsène Wenger. Quand même, Arsenal est un club en très bonne santé, un club qui représente beaucoup de choses, qui est très populaire dans le monde entier, et ça va être un club qui va rebondir et qui va faire fructifier tout ce travail souterrain qu'a
après,
conduit
ça pour terminer
sur Wenger difficile. Je vais quand même vous dire la réaction, ça intéressera sans doute Rémy Ngono, la réaction d'Alex Ferguson, qui était un de ses anciens rivaux. Alors justement, il le nomme comme un rival, un collègue et un ami. Je suis très heureux pour lui, j'ai un grand respect pour lui et pour le travail qu'il a réalisé à Arsenal, à une ère où les entraîneurs ne restent parfois pas plus d'une ou deux saisons. Ça montre la prouesse que c'est de durer aussi longtemps dans un club du niveau d'Arsenal. Plutôt une réaction classe de la part d'Alex Ferguson, donc un de ses plus anciens rivaux. Justement, on parlait de la succession d'Arsenal. Alors messieurs, qui pour lui succéder maintenant? Il y a plusieurs prétendants en lice, mais on pense bien évidemment à Thierry Henry, la légende du club. Alors est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas trop tôt, Marc Libra?
Oui, pour moi, enfin pour Henry, ça me semble un petit peu tôt. Est-ce qu'on va partir sur quelque chose qui peut se rapprocher de Vieira, qui est passé par les jeunes et qui après est parti aux États-Unis se faire un petit peu la main pour revenir peut-être? Il faudra pas confier le club à n'importe qui, ça c'est sûr et certain. Il faut qu'il y ait une certaine culture d'Arsenal aussi. Parce que comme on l'a dit, il a construit quelque chose. Et pensez aussi, l'après Ferguson a été très dur à gérer. Très, très dur à gérer. Donc, pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on entend Tuchel qui est capable de finalement de pas aller à Paris, d'aller là-bas. Est-ce que ça va rentrer dans le système Arsenal? Je ne sais pas. En tout cas, Arteta peut être un joueur qui est passé par Arsenal aussi, qui peut convenir. Ouais,
qui est maintenant adjoint de Guardiola.
Qui est adjoint de Guardiola, qui est passé, enfin, qui quand on est aux côtés de Guardiola, c'est aussi intéressant. Donc, peut-être ce profil de joueur qui est capable de comprendre aussi les entraînements qui sont assez longs. C'est assez délicat, façon de travailler en Angleterre qui n'est pas la même en France, pas même en Espagne. Donc attention de ne pas arriver et de tout chambouler.
Vous allez barrer, vous pensez à qui, vous?
Moi, je disais qu'il y a finalement un entraîneur qui a fait des bons résultats à Barcelone et qui pourrait retrouver quelques joueurs espagnols à Arsenal, c'est bien sûr Luis Enrique. On en parlait à Chelsea, a priori, s'il n'irait pas, donc pourquoi pas Luis Enrique, ça pourrait être une solution. Je suis pas certain, effectivement, que l'appel à Patrick Vieira ou à Thierry Henry tout de suite soit la solution. Ça va être très compliqué, la succession de Wenger. Marc Libra le disait justement, à Manchester United, regardez, depuis le départ de Ferguson, il y a eu David Moyes.
Ouais, échec.
51 matchs, toutes compétitions confondues, ça a été, il est parti avant la fin de saison. Ryan Giggs a assuré l'intérim. Et Louis Van Gaal, malgré son expérience, a tenu 2 ans. Il a quand même gagné une cup. Et on a fait appel à Mourinho. Et Mourinho, qui a claqué quand même près de plus de 300 millions d'euros, en 2 ans, a réussi à gagner royalement une Coupe de la Ligue et une Europa League. Donc, on voit très bien que l'après Wenger sera sûrement très compliqué pour celui qui va lui succéder.
Rémy Ngono.
Et je crois que c'est là l'échec patent de Wenger. Ah. Parce que je crois, moi, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de parler comme ça, là, c'est le problème des générations, des successions, de formation, du legs, de l'héritage. Parce que, quand vous regardez, par exemple, quelqu'un comme Thierry Henry, si Wenger, se sachant, par exemple, français, aurait pris sous son aile Thierry Henry, ou bien Vieira, où en serons-nous? Eh bien, ça aurait été quelque chose comme, par exemple, Zinedine Zidane, qui a déjà remporté
avec
la...
Carlo Ancelotti.
Avec Carlo Ancelotti. Ouais. La preuve aujourd'hui, c'est que Zinedine Zidane a quand même 2 Ligues des Champions. Mais Wenger, lui, c'était moi, et rien que moi, et moi seul. Et à une certaine période, quand il va chuter, et bien évidemment, ça va faire comme on vient de parler avec le système de son prédécesseur, enfin, de son ami et tout, aussi à Manchester United, c'est dire, ce sera la traversée du désert. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsqu'un gros barba tombe, il entraîne les arbustes, et ce sera ça, parce que les autres, il les a écrasés.
Vous êtes d'accord avec ça, Salim? Oui. Il aurait dû peut-être prendre quelqu'un sous son aile pour préparer la succession.
Exactement, pour penser à la succession, effectivement, pour penser à l'après Wenger, justement. C'est vrai qu'il ne l'a pas assez fait. On oublie souvent.
Ah, il a essayé de le faire avec Thierry Henry.
Mais au final,
mais il a proposé à Thierry, il faut rappeler les choses à nos auditeurs. Il a proposé à Thierry Henry d'intégrer le staff. Et Thierry Henry était dans le staff. Et puis, Thierry Henry était aussi consultant, grassement payé, très grassement payé, Sky, avec un contrat énorme. Et donc, il lui a dit, il faut que tu choisisses. Et Thierry Henry a préféré rester consultant sur Sky.
Lui n'était pas consultant en France? Pour les matchs?
Oui, non, mais après, il était consultant pour les matchs de l'équipe de France sur TF1.
C'est très ponctuel, voilà. Sur la Coupe du Monde.
Vous pouvez pas être entraîneur.
Sur une compétition qu'il gérait pas.
Vous pouvez pas être entraîneur d'Arsenal et en même temps critiquer ou devoir critiquer Arsenal. Là, c'est logique, c'est ce qu'on demandait à Thierry Henry. Mais juste pour terminer, parmi les noms, moi, il y en a un qui me paraissait assez évident, c'est Thomas Tuchel. Le côté managing potentiel,
à Arsenal, il l'aurait
plutôt offensif aussi.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on parle de son nom au PSG, et puis surtout dans le recrutement, plutôt dans les direct, dans le board, pardon, de cette équipe d'Arsenal, Sven Mislintat, pardon, qui est l'ancien directeur du recrutement, si je ne m'abuse, à Dortmund, en tout cas, il était dans le recrutement. Ces deux hommes se détestent, ils se haïssent à un point. Son
nom. Petit peu compliqué.
Le premier est arrivé, je vois mal Tourelle arriver aussi.
Alejandro Valente, c'est quoi votre avis sur cette succession d'Arsenal?
On parle beaucoup du PSG finalement, et moi, je mettrais une pièce sur un ancien joueur du PSG, Mikel Arteta, qui avait côtoyé un certain Pochettino à l'époque.
Et qui apprend tout avec Pep Guardiola aujourd'hui.
Du côté du camp des loges, et je pense qu'il a le profil.
Qui a relancé Raheem Sterling, qu'il a un petit peu, qui a permis à Raheem Sterling de se relancer en première ligue. Et puis maintenant, rapidement, messieurs, que va-t-il faire Arsène Wenger? Des vacances, des autres projets? Xavier Barré, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il va souffler un petit peu. Il a le droit, il a 68 ans. Donc maintenant, c'est pas dans son tempérament. On a souvent dit, il décroche pas parce qu'il a pas d'autres passions. Ferguson est allé aux courses. Wenger n'a pas d'autres passions. Sa vie, c'est le football. Et donc, je me demande s'il va peut-être pas chercher un dernier défi un peu pour changer les idées. Peut-être on parle de la Chine, peut-être un poste de sélectionneur, histoire de garder le contact avec le terrain qui reste sa passion.
Ou Arsène Wenger qui s'entend très bien avec les dirigeants qataris, pourquoi pas arriver au PSG, être manager, super manager au Paris Saint-Germain.
Donc Arsène Wenger au PSG, Tuchel Arsenal et
ça lui avait été proposé il y a quelques années,
mais
ça ne s'est pas fait.
Il s'entend très bien avec les dirigeants qataris, donc
moi si je suis lui aujourd'hui, je prendrais le conseiller dans un club ou pour un pays, je suis conseiller, croyez-moi, je me la coule douce, je galère moins le matin.
Oui, mais il a peut-être pas envie de se couler douce.
Cher Salim, cela veut dire que en effet, le PSG qui cherche à gagner la Ligue des Champions va recruter l'entraîneur qui a signé un contrat de jamais gagner la Ligue des Champions.
Moi, je le verrais bien à la FIFA ou à l'UEFA, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a une belle connaissance du milieu du football et il pourrait apporter beaucoup dans une institution de
l'équipe. Voilà, beaucoup de possibilités pour Arsène Wenger. Et bien, on suivra ça dans les prochaines semaines et prochains mois.
Radio Foot International.
Cédric De Oliveira.
Alors messieurs, on va se concentrer maintenant sur le terrain, puisque ce week-end il y aura deux gros matchs, et notamment un en Italie, 34e journée de Serie A. Naples se rend sur la pelouse de la Juventus Turin pour revenir un petit point au classement. On va écouter Maurizio Sarri, l'entraîneur napolitain, sur cette rencontre.
Nous devons penser avant tout à nous-mêmes plutôt que de penser aux autres. Prouver que nous n'avons pas peur, ce que la Juve a largement fait cette saison. Notre philosophie ne me pousse pas à aborder ce match la peur au ventre. Nous allons plutôt faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire imposer notre jeu. À plusieurs reprises, nous y sommes parvenus, mais parfois non, car on affronte des adversaires de très haut niveau.
Maurizio Sarri qui veut imposer son jeu. Alors, ma question est toute simple. Naples est-il capable d'aller s'imposer sur la pelouse de la Juventus Turin? Marc Libra, vous en pensez quoi?
Non, je ne pense pas. C'est dommage parce que Naples avait fait un très bon début de saison quand la période de la Juve n'était pas forcément, en forme. Et ça a duré un petit moment puisque Naples a fait cavalier seul. Et puis la Juve, rappelez-vous, sur ces plateaux, ils étaient troisième à une époque. On me disait, ah mais non, la Juve, c'est fini. Ouais, c'est fini, mais vous inquiétez pas. Ils ont été capables de sortir un match face au Real Madrid. Quand il faut sortir le match, ils ont sorti le gros match. Le football a fait qu'ils ne passent pas. Mais en tout cas, cette équipe-là, elle est prévue pour souffrir et aller chercher ce nouveau titre. Parce que je vois pas. C'est dommage que le Napoli avait quelque chose vraiment à faire. Et ils ont simplement gâché leur deux, trois derniers mois. Depuis la reprise en janvier.
Raymond Gonou, vous êtes d'accord, la vieille dame est trop forte?
Oh, oui, je suis d'accord avec Marc parce que aujourd'hui, on se rend
compte. Vous avez vu Marc, très bien d'accord avec vous.
Sur le foot italien.
Parce que en réalité, aujourd'hui, c'est que la Juve était prenable au début. Et malheureusement, on revit exactement la même aventure qui s'est passée avec Naples de Cavani. C'est-à-dire qu'ils ils étaient devant, et ils avaient un boulevard, et par la suite, la Juve arrive derrière, et puis la Juve gagne le championnat. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, quand je vois les armes, Naples, aujourd'hui, n'a pas un grand buteur. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors qu'aujourd'hui.
Il y a quand même Dries Mertens devant, mais qui, pour vous, ne fait pas l'affaire.
Non. Dries Mertens dépasse, par exemple, Higuain avec un seul but. Or, Dybala, lui seul est déjà à 24 buts.
Voilà, il y a plusieurs armes du côté de la Juve.
Il y a beaucoup d'armes et il y a Pjanic qui revient. Et justement, donc, quand on essaie de regarder cette équipe-là, qui, bien sûr, avec 66 buts, on peut dire qu'ils ont quand même essayé de marquer, mais c'est une équipe qui est beaucoup aujourd'hui équilibrée, mais qui ne peut pas bouger l'équipe de la Juve, qui en cette fin de saison, et surtout j'ai vu certains matchs, et par rapport à leur envie contre le Real, non, ils ne perdent plus. Ils ne perdent du tout plus. Donc pour moi, je ne vois pas Naples passer.
Eh ben, très bien, on verra ça. Ce sera dimanche, ce choc entre Naples et la Juventus Turin. On en reparlera la semaine prochaine dans Radio Foot International. Et puis, il y a aussi la finale de la Coupe du Roi en Espagne entre le FC Séville et le FC Barcelone. Ce sera au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid. Peut-être le premier titre de la saison pour les Catalans. Alors, je vais me retourner vers Alejandro Valente. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Andalous sont capables de dominer le Barça?
Non, je ne le crois pas.
En
toute objectivité, je pense que Barcelone va encore faire la différence grâce à Messi. Ce sera sa 27e finale. Et Messi en a gagné 20 sur 26 finales qu'il a disputées dans tous les terrains.
C'est un beau ratio.
Il a marqué en moyenne plus d'un but par match en finale.
Ça, Ravi.
Et je pense que Séville est une de ses victimes préférées. Donc je pense que tous les ingrédients sont réunis pour peut-être pour un beau match, mais aussi pour une victoire du Barça.
Salut. Et en plus, symboliquement parlant, Barcelone qui viendrait soulever un trophée à Madrid dans cette période.
C'est déjà arrivé.
Non, mais encore plus. J'entends par là ces derniers mois, tout ce qui s'est passé en Catalogne, les élections pour cette tentative d'indépendance, en tout cas voulue par certains Catalans. Quelques mois après, vous allez ensuite potentiellement soulever un trophée à Madrid. C'est vrai que ce sera encore plus fort forcément pour cette équipe de Barcelone quand on connaît en plus certains joueurs qui sont très attachés à ces couleurs catalanes. On pense à Piqué notamment.
Marc Libra, le Barça est favori de cette finale?
Oui, après un match reste un match, tout est possible, mais je vois pas les Barcelonais trébucher à ce moment-là de la saison, vraiment.
On les a sentis un petit peu fatigués ces dernières semaines, Xavier Barré,
mais Séville est encore moins bien, hein. Séville n'est même plus dans les places européennes actuellement en championnat. Ils ont
deux équipes qui étaient en quart de finale avec des champions et qui se sont fait éliminer.
Voilà, ils ont été dépassés par leurs rivaux du Betis au classement de la Liga, ils sont un peu fatigués eux aussi, ils ont beaucoup joué. Ce qui est amusant, c'est que c'est devenu le classique des finales européennes, puisque c'est la sixième fois qu'ils se rencontrent depuis 2006 exactement. Et donc, Séville ne l'a remporté qu'une seule fois. C'était une Super Coupe d'Europe, en 2006 d'ailleurs. Donc depuis, le Barça s'est toujours imposé, et comme le rappelait El Jefe, Messi contre Séville, c'est déjà 30 buts, toutes compétitions confondues. Donc
ça calme.
J'espère qu'on aura une belle finale, mais je vois mal le Barça ne pas la gagner.
Eh bien,
moi je ne serais pas d'accord avec eux.
Ah, très bien Rémi, je vous écoute, dites-moi pourquoi.
Premièrement, cela veut dire qu'ils n'ont pas vu le dernier match Séville-Barça. Barça égalise à la dernière minute après que FC Séville ait eu 18 tirs.
Avec Messi, grâce à Messi.
Voilà, 18 tirs, je le dis bien. Quand on parle aujourd'hui, nous sommes dans une fin de la saison, et même quand on me parle d'un certain nombre de choses, on me dit que ce Barça-là est invincible, c'est eux qui viennent aussi de se faire quand même battre.
Non, on n'a pas dit que c'était invincible, ils étaient largement au-dessus de Séville.
Favori.
Attendez, est-ce que vous avez vu Barça contre Las Palmas, 18e de la Liga? Eh bien, c'est un match nul où Barça...
Il joue plus rien, le Barça.
Aujourd'hui,
il déroule.
Il déroule comme l'AS Roma. Oui, oui.
C'est comme si vous nous disiez, regardez, le Real a souffert contre Bilbao.
Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que...
On en reparlera rapidement, s'il vous plaît, rapidement.
Cette équipe du Barça, certes, a aussi, ils ont dit, plus de 3000 minutes, parce que c'est l'équipe qui a les 10 titulaires, chacun est beaucoup plus épuisé aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai dit que lorsque je vais voir ce match-là, exactement comme j'avais dit à Alejandro Valente, que ni City ni Barça n'allaient jouer la finale de la Ligue des Champions, eh bien, je vais aussi appeler El Refé, qui, bien évidemment, va fermer le téléphone après la victoire. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est comme si c'était facile, alors qu'aujourd'hui, Barça peine.
Et là, ce sera.
Et trim.
Et ben, peut-être que Rémy N'Gono aura raison. En tout cas, rendez-vous. Là, ce sera samedi, cette finale de la Coupe du Roi.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Alors messieurs, on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes beaucoup dans le studio. Rémy Nguenot, très rapidement, votre carton de la semaine, s'il vous plaît.
Carton rouge à la Lina Foot, qui est adressé par Ben Lukasu et Christelle John, et qui disent donc que c'est incroyable quand même que la Fédération Congolaise de Football soit actuellement solidaire avec Constant Omari et décrète qu'il n'y a plus de championnat, juste parce que Constant Omari est actuellement poursuivi par la justice pour quelques détournements. Et finalement, on dit que mais si l'UEFA faisait aussi la même chose ou la FIFA, on aurait aussi renvoyé ou bien suspendre la Coupe du Monde, la Coupe de l'UEFA et tout. Donc, ça, c'est regrettable qu'on supporte toujours les gens qui pillent un peu et tout. Et malheureusement, comme le dit un proverbe africain, les hiboux chantent avec les hiboux.
Voilà, solidarité de la Fédération Congolaise à Constant Omari, qui est accusé de fraude. Salim Bongali, votre carton de la semaine.
Carton rouge, en l'occurrence. Quand vous avez des supporters du PSG qui regardent la victoire face à Monaco 7-1 et le titre de champion de France, quand vous voyez le PSG se qualifier également pour la finale de la Coupe de France face à Caen, vous en avez d'autres qui, eux, préfèrent ne pas regarder le match mais jouer au poker. En l'occurrence, Neymar. En termes de communication, c'est quand même invraisemblable. Vous êtes la star du club. Alors oui, évidemment, vous pouvez pas vous déplacer. Vous êtes pas à 100% à la limite, mais au moins jouer le jeu, j'ai envie de dire.
Il aurait dû être présent.
Regarder le match à fond, au moins montrer que vous voulez regarder le match et pas que vous êtes en train de jouer au poker vraiment et vite fait au fond de la salle, vous voyez le match.
C'est l'opération marketing, je crois.
En tout cas, c'était sur les réseaux sociaux, il l'avait tweeté ainsi. C'est délicat quand même de faire cela alors que votre club est en train de jouer quand même.
Ouais, et surtout que c'était le plus grand joueur
son
en tout cas.
Son club ou son ancien club ?
On sait pas encore.
Voilà, c'est ça. C'est pas un très bon message en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Marc Libra. À votre tour, un petit carton.
J'avais celui-là aussi, mais c'est la demi-finale de la Coupe de France. J'ai des très bons souvenirs de demi-finale avec mes parents. Aujourd'hui, on peut plus voir un match, une demi-finale de Coupe de France, ça devient du luxe de la voir.
Vendez les Herbiers Chambly, en l'occurrence.
Mais c'est pas possible. Je suis désolé. Eurosport, ils sont gentils, mais il faut arrêter, quoi.
Voilà, carton rouge au diffuseur, en fait.
Ouais, voilà. Mais au diffuseur, mais à un moment donné, avec la Ligue, la Fédé se mettre. Voilà, écoutez, on va le retransmettre pour que tout le monde puisse le voir. Et l'année prochaine, on va bien rire, parce que la Ligue des Champions, Ligue Europa, où c'est qu'on va la voir? C'est qu'à cause de Salim Bengali.
C'est ça.
Mais plus sérieusement, c'est pas possible aujourd'hui. Une demi-finale, on doit pouvoir la voir sur une chaîne de la TNT. C'est pas possible.
Après,
je suis désolé. Mais l'offre et la demande. À un moment donné, il faut penser à tout le monde et arrêter de penser à l'argent. C'est purement scandaleux. J'avais
sur une chaîne effectivement non payante.
Bon. Eh ben, on est tous. Moi, j'ai beaucoup de chaînes et malheureusement, Eurosport 2, ben, il fallait prendre. Ah, je l'ai pas. Ah non, mais faut arrêter.
Moi qui travaille.
Moi, je prends pour des vaches à lait. Donc,
ça existe même cette chaîne.
Je suis obligé de défendre un peu Eurosport qui paye les droits de.
C'est ça.
Pour les diffuser et en faire bénéficier notamment les clubs amateurs à qui je voulais attribuer un carton vert d'ailleurs aux Herbiers vainqueurs donc qui va aller en finale parce que eux au moins jouent le jeu à fond dans cette Coupe de France alors que les clubs professionnels commencent maintenant à la laisser filer. Donc s'il y a effectivement des gens qui ont l'intérêt pour cette Coupe de France, eh bien qu'ils la suivent ou elle est diffusée puisqu'il y a effectivement des gens qui payent pour pouvoir encourager le foot amateur.
Il faut avoir 150€ aujourd'hui pour pouvoir avoir les matchs de foot tout le week-end. Faut arrêter. Moi, j'ai toutes les chaînes, mais c'est scandaleux.
Moi, je paye pas 150€. Il faut que tu négocies mieux,
pas des bêtises.
Il faut mieux que tu négocies avec les diffuseurs.
Xavier Barré, je reviens rapidement sur ce que vous disiez. Pour vous, les clubs professionnels, c'est pas leur priorité cette Coupe de France.
C'est une évidence, on le voit maintenant. On sait qu'effectivement, les clubs professionnels ont besoin d'argent pour boucler leur budget. Donc, il y a ceux qui payent beaucoup d'argent et c'est le championnat d'abord. Après, c'est les Coupes d'Europe. Après, c'est la Coupe de la Ligue parce qu'elle n'impose que très peu de matchs. Et puis, la Coupe de France vient en dernier lieu.
La Coupe de France, c'est quand même, ça fait 4 ou 5 ans, c'est quand même Paris, Monaco,
voilà, avec Lyon. Paris, on le rappelle.
Ou d'autres clubs, on a vu Amiens, on a vu Sedan.
Paris, on le rappelle, qui sera grand favori, messieurs. On n'a pas beaucoup de temps. Paris, on le rappelle, qui sera.
Sur les 15 dernières saisons.
S'il vous plaît. Rémy, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Paris qui sera favori face aux Herbiers en finale. Alejandro, rapidement, votre carton.
Je vais dire un carton au foot féminin, quand même, parce qu'on parle beaucoup. Il y a les demi-finales aller de la Ligue des Champions ce week-end. Et Lyon va aller jouer à Manchester City et ce sera diffusé encore par une chaîne payante. C'est un référence au Canal Plus.
Et bien voilà, très bien messieurs, je vous remercie. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission et Guillaume Ploquin qui l'a réalisé. Très bonne journée sur RFI.